Laudetur Jesus Christus.
Toujours plus d'argent consacré à l'achat d'armes, plus 6,8% en 2023 par rapport à 2022. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle du CIPRI. Parmi ces armes, les drones. Nous verrons les raisons d'un succès toujours plus grand sur les champs de bataille. La politique sécuritaire contre les gangs et les trafiquants de drogue du président équatorien plébiscité. 65% des votants ont dit oui hier aux mesures présidentielles lors d'un référendum. Jair Bolsonaro compte ses soutiens. L'ancien président brésilien avait appelé ses partisans à manifester hier à Rio de Janeiro. Reportage dans le cortège de notre correspondante. Et puis, nous verrons pourquoi les Serbes du Kosovo ont boudé le référendum qu'ils avaient réclamé eux-mêmes pour annuler les résultats des élections municipales contestées de l'année dernière.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. 2443 milliards de dollars rien que pour l'année 2023. C'est le montant des dépenses mondiales en matière de défense, soit une augmentation de 6,8% par rapport à 2022. C'est ce qu'annonce dans son étude annuelle le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Tous les continents sont concernés. Les États-Unis restent les plus dispendieux en matière d'armement. 916 milliards de dollars, soit plus du tiers du total mondial, suivent la Russie et la Chine. Parmi ces armes, il y a les drones, dont le rôle ne cesse de grandir dans les conflits. On le voit notamment en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Comment en est-on arrivé là? Réponse de Léo Peria-Peigné. Il est chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
C'est important au sens où former un pilote d'avion de chasse, pour qu'il apprenne toutes les subtilités du métier pour être réellement efficace, il faudra plusieurs années. Là, avec un drone, vous pouvez former quelqu'un en assez peu de temps. Et surtout, vous ne risquez pas de le perdre. Parce que votre opérateur, s'il est bien protégé, s'il est à distance du front, il va survivre. C'est pourquoi il y a un problème en Ukraine aujourd'hui, c'est que les pilotes ont peur de s'engager au-dessus des lignes de front, parce qu'il y a tellement de défenses antiaériennes qu'ils risquent de mourir. Or là, avec les drones, a fortiori sur un drone pas très cher, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, vu qu'il n'y a pas de risque pour le potentiel humain.
Et est-ce que le recours au drone peut changer l'issue d'une guerre, par exemple?
C'est difficile à dire pour le moment. C'est une arme, c'est donc un outil qui est là pour apporter une solution tactique. Maintenant, ça dépend comment on l'utilise. Là, ça fait 4 mois que les Ukrainiens utilisent des drones à extrêmement longue portée, avec plusieurs milliers de kilomètres de portée, pour aller frapper des infrastructures pétrolières partout en Russie. Mais le drone en soi ne sert pas à grand-chose. C'est ce que vous en faites qui va influer sur le conflit.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Parmi les pays qui consacrent une grande part de leurs finances aux dépenses militaires, la Corée du Nord, illustration ce matin. Pyongyang salve de missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon. Information donnée par la Corée du Sud et le Japon. Autre pays qui engage de fortes dépenses militaires, Israël, où le chef du renseignement militaire, le général Aaron Haliva, a présenté sa démission. Il dit assumer sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. C'est le premier haut responsable israélien à quitter ses fonctions depuis ce jour, considéré comme le plus meurtrier de l'histoire du pays. La Chine, grande gagnante des législatives, aux Maldives. Hier, les électeurs ont donné une très large majorité au Congrès national du peuple, le PNC, le parti du président Mwidzou, élu en septembre dernier. L'enjeu du scrutin était la validation de sa politique de rapprochement avec Pékin, surtout dans le domaine économique. Le PNC, qui ne comptait que 8 sièges dans l'Assemblée précédente, en possède dorénavant 66 sur un total de 86. Autre vote, hier, en Équateur, celui d'un référendum proposé par le président Noboa, un président qui se trouve à la tête d'un pays devenu la principale plateforme d'exportation de cocaïne produite en Colombie ou au Pérou. L'Équateur est en proie à la violence des gangs et des narcotrafiquants depuis des mois. Pour les combattre, Marie Duhamel, le chef de l'État équatorien, proposait donc un référendum sécuritaire validé à 65% par 13,6 millions d'électeurs.
Oui, sur 11 questions posées, 9 concernaient la mise en œuvre d'une politique contre la violence, le crime organisé, la corruption. Elles ont été adoptées par une large partie de la population qui s'est déplacée à 72%. Daniel Noboa y voit un triomphe. Le tout jeune président de 36 ans devrait s'en féliciter tout à l'heure devant le Parlement. Il n'y a pas la majorité. Il lui faudra donc convaincre les élus de la nécessité d'approuver les changements à la Constitution et au Code pénal qu'impliquent les mesures approuvées hier parmi la population. Et parmi ces mesures, de nouveaux permis de port d'armes, l'alourdissement des peines pour des délits liés au crime organisé ou la possibilité pour les forces de sécurité d'utiliser les armes saisies, même si celles-ci semblent la plupart du temps de fabrication artisanale et donc inutile. Mais la mesure phare, la mesure plus redoutée par les gangs et ainsi la plus significative, est l'extradition des Équatoriens liés au réseau criminel, notamment vers les États-Unis. 65% des votants se sont prononcés pour. Et si les électeurs ont validé le projet sécuritaire du néo-président, ils ont rejeté en revanche ces deux propositions économiques. 69% des électeurs ont vu dans sa proposition de payer le travail à l'heure une régression de leurs droits.
Marie Duhamel. Les Mexicains se rendront aux urnes le 2 juin pour renouveler leurs élus nationaux et locaux et parmi eux le chef de l'État. Dans cette perspective, les évêques du pays organisent une journée nationale de prière pour le processus électoral le 26 mai prochain. Ils espèrent ainsi que le vote se réalise dans la paix et amène des résultats favorables pour le bien du Mexique. Jair Bolsonaro n'entend pas se faire oublier. Au Brésil, l'ancien président, condamné à 8 ans d'inéligibilité, a convoqué ses partisans pour une manifestation hier. Près de 30 000 personnes sont sorties dans les rues de Rio de Janeiro pour le soutenir. Ce rassemblement a lieu alors que la justice brésilienne, Elon Musk, le patron de Twitter, sont en plein bras de fer. Reportage à Rio de Sarah Cozzolino.
Vous voyez ici un peuple qui aime la liberté et ne baissera pas les bras devant la dictature. Sur un char face à la plage de Copacabana, les discours de soutien à l'ancien président se succèdent sous fond de musique dramatique. Comme Jair Bolsonaro, Sergio et sa femme Claudia se sentent censurés sous le gouvernement Lula.
Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir s'exprimer. On a peur de dire les choses qu'on pense, c'est absurde. Moi et ma femme avons vécu la dictature et rien de tout ça n'existait.
Tout le monde a peur, le Brésil vit dans la peur. C'est la raison pour laquelle cette manifestation est très importante.
Visé par plusieurs enquêtes, notamment pour tentative de coup d'État, Jair Bolsonaro a appelé ses partisans à une manifestation sans banderole ni pancarte. Il a demandé à la foule d'applaudir Elon Musk. Le patron du réseau social X est accusé par la justice brésilienne d'encourager la dissémination de fausses informations. Mais c'est tout le contraire, selon Bernardo, jeune avocat.
Twitter est un réseau qui défend la liberté d'expression. Et malheureusement, ici au Brésil, les personnes de droite qui s'exposent sont persécutées par la justice brésilienne.
Jair Bolsonaro se dit lui-même persécuté, mais confiant, la relève est selon lui assurée. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, pour Radio Vatican.
Le sort des Haïtiens dans les prières des catholiques de New York. Hier, le cardinal Dolan, l'archevêque de la ville, a célébré une messe pour le peuple haïtien en la cathédrale Saint-Patrick, afin de prier pour la paix et la fin de la violence dont souffre la population haïtienne. Pas question de se mettre en retrait maintenant que les États-Unis sont sur le point de débloquer une aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'assurent les ministres européens des Affaires étrangères en réunion aujourd'hui à Bruxelles. La chef de la diplomatie allemande a assuré que les 27 allaient parler de la façon d'augmenter leur aide à Kiev, alors que le pays, que l'Ukraine doit recevoir 61 milliards de dollars de la part de Washington. Une aide d'ailleurs plus que nécessaire pour l'armée ukrainienne, en témoignent ses propos du chef du renseignement militaire ukrainien. Il annonce que la situation sur le front devrait empirer autour de la mi-mai et début juin. Référendum hier dans le nord du Kosovo pour annuler les élections municipales contestées de l'année dernière dans la région, un scrutin réclamé par les Serbes du pays qui, pourtant, ont boycotté la consultation. Les explications à Belgrade de Laurent Rouy.
Il y a un an, les Serbes boycottaient les élections municipales dans le nord Kosovo, aboutissant à l'élection de 4 maires albanais avec une participation de 3% seulement. En février, les Serbes du nord du Kosovo demandaient par pétition qu'un référendum soit organisé pour le renvoi de ces maires contestés. Ce référendum a eu lieu dimanche. Mais à l'appel de Belgrade, les Serbes ont décidé de boycotter le référendum qu'ils réclamaient il y a 2 mois. La justification de ce boycott tient à la loi kosovare. Pour que la consultation soit valable, il faut que 50% des inscrits y participent. Or, depuis que les conditions de vie se dégradent dans le nord du Kosovo, de plus en plus de familles ont quitté la région et il semblerait que la population soit maintenant trop faible pour atteindre ces 50%. Résultat, sur les 46 000 inscrits, seules 253 personnes s'étaient exprimées. Le référendum est un échec, tandis que Pristina accuse Belgrade d'avoir empêché la population de s'exprimer librement à propos de l'annulation des élections controversées. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
À un mois et demi des élections européennes, les évêques de la Comissée invitent à prendre le scrutin au sérieux. Réunis en Pologne à l'occasion de leur assemblée de printemps, les responsables des épiscopats de l'Union européenne saluent aussi le processus d'élargissement de l'Union. Un processus qui nécessite néanmoins des réformes et demande de réfléchir une nouvelle fois sur les valeurs communes du vieux continent. Nous y reviendrons plus en détail dans notre journal de 18h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'information en langue française, donc à 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.